Frères et sœurs, vous avez peut-être commencé à installer une crèche chez vous. C'est une façon de nous préparer à la nativité du Seigneur, et cette préparation est belle et bonne pour nous souvenir du sens véritable de Noël, mais elle est aussi le moyen d'une autre préparation, la préparation de nos âmes, la préparation de nos cœurs. Préparer les chemins du Seigneur, annonce Jean-Baptiste, et il propose un baptême de conversion en vue de la rémission des péchés. Il s'agit pour nous de reconnaître que le temps, ce temps de l'Avent où nous sommes entrés, est un temps favorable. C'est un temps où Dieu fait grâce, où Dieu patiente pour que nous nous convertissions. Et du coup, il serait grave de ne pas le reconnaître, il serait triste de ne pas profiter de ce temps. Dieu veut faire grâce et nous ne serions pas prêts. Il y a en cela un bouleversement de l'optique païenne, de l'optique qui existait chez les païens. Dans l'optique païenne, c'est l'homme qui est prêt. L'homme est prêt et il offre aux dieux des présents, des sacrifices, pour que les dieux lui deviennent favorables, pour que les dieux s'apaisent. Ici, c'est le contraire. Dieu est prêt et c'est l'homme qui le fait attendre. Ce temps de l'Avent est le temps de la conversion, le temps de l'ouverture à la grâce. Alors, mais qu'est-ce que c'est que la conversion ? En grec, le mot qui le désigne, c'est « metanoia ». Ces mots de « meta » à côté, « noia », le « nous », la pensée. Mais du coup, la metanoia, la conversion, c'est penser autrement, une pensée à côté, une pensée distincte de ce que l'on produisait précédemment. Je modifie ce que je pensais, je modifie comment je voyais les choses. Il y a donc un retournement de notre pensée qui provient d'une lumière nouvelle sur ce que je vivais. Il ne peut pas y avoir de changement sans l'apport de cette lumière nouvelle. Quelle est cette lumière ? C'est le rappel de l'alliance de Dieu avec son peuple. Comprenons peut-être plus profondément le geste que faisait Jean-Baptiste. On nous dit que les gens venaient à lui, mais pas n'importe comment. Jean-Baptiste les faisait sortir de la terre promise, de l'autre côté du Jourdain, en terre païenne, et pour revenir dans la terre promise, ils allaient traverser le Jourdain où lui les attendait au milieu, ils allaient confesser leurs péchés, et puis Jean-Baptiste allait les plonger dans l'eau du Jourdain, puis les relever, et alors seulement ils entraient dans la terre promise. Qu'est-ce que ça signifiait ? Ça signifiait que le péché, l'oubli de l'alliance avec Dieu, est ce qui nous fait sortir, nous exclut de la terre promise. Celui qui est pécheur s'exclut de la terre promise. Et voilà que pour entrer dans la terre promise, pour entrer dans la terre de l'alliance, il y a une étape qui est la confession des péchés. Il y a le pardon des péchés. Et en même temps, Jean-Baptiste, en les plongeant lui-même, ils ne se plongent pas eux-mêmes, manifeste que cette miséricorde, nous devons la recevoir. Nous ne pouvons pas nous la donner à nous-mêmes. Cette miséricorde, nous devons avoir l'humilité de la recevoir. Et qui peut la donner, cette miséricorde ? C'est le Messie. C'est le Messie qui, par le don de l'Esprit-Saint, nous obtient le pardon des péchés. Et c'est pour cela que Jean-Baptiste insiste en disant « Moi, je vous baptise simplement dans de l'eau. Vous espérez le pardon des péchés, mais moi, je n'ai pas le pouvoir de vous le donner. Un plus fort que moi va venir, le Messie. Et lui, ce n'est pas seulement dans de l'eau qu'il vous baptisera, c'est dans l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint qui nous purifie de tout péché. » Voilà le sens de ce baptême de conversion pratiqué par Jean-Baptiste. Et donc la lumière que nous recevons est ce rappel de l'alliance avec Dieu. Et nous pouvons examiner notre façon de vivre à la lumière des 10 commandements. Si vous ne savez plus où ils sont, c'est en Exode 20 ou c'est en Deutéronome 5. Nous pouvons examiner notre vie à la lumière des béatitudes en Matthieu 5. Ou bien, si nous sommes un peu curieux, aller regarder comment les 10 commandements sont présentés dans le catéchisme de l'Église catholique. Voilà, nous recevons une lumière sur notre vie. Mais pour que conversion ait lieu, il faut encore une décision concrète en vue d'une mise en pratique. Parce que si on choisit de se retourner, mais qu'on ne fait aucun pas, en fait, on fait du surplace. C'est un peu le risque de la vie spirituelle. Je vois ce qu'il y aurait à faire, et je ne le fais pas. Et du coup, pas grand-chose ne change. Je vais prendre un petit exemple. Parfois, on peut se rendre compte de ce que j'appelle un petit geste d'idolâtrie. Idolâtrie envers notre travail, envers nos études. Et comment cela ? On se rend compte qu'on est capable d'arriver à l'heure au travail, d'arriver à l'heure à l'entretien avec notre patron, qu'on est capable d'arriver à l'heure à nos examens, mais que on n'arrive pas à être à l'heure pour le Seigneur, on n'arrive pas à être à l'heure pour la messe. 9 fois sur 10, on se rend compte, par exemple, qu'on arrive en retard à la messe. Bon, voilà, une prise de conscience. Mais de là doit être une décision. Alors, pour l'intelligence, la lumière, c'est, par exemple, saisir... Le chant d'entrée est important, même si on ne chante pas très bien, parce qu'il constitue l'assemblée. Des diverses personnes, il va faire un seul cœur. Un seul cœur au sens des choristes, mais aussi un seul cœur au sens de la communion. Et donc une décision concrète, ben ça peut être de mettre un rappel dans notre agenda, de mettre une petite sonnerie, qui nous permet de stopper l'activité précédente pour arriver en temps et en heure à la messe. Voilà, j'ai besoin peut-être... que mon activité précédente soit terminée, abandonnée, 20 minutes avant. Bon, cette sonnerie me dit qu'il faut que je m'y mette. J'ai pris une décision concrète. Rendons-nous compte que la prise de cette décision, c'est pas simplement, je dirais, nous qui avons amené ce combat, on le trouve aussi dans la vie des saints. Il y a un exemple qui m'avait frappé dans la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Ce sont des lettres, A, B, C, D, qu'elle laisse inachevée. Comment cela ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, elle était en train d'écrire une lettre, et puis la cloche de l'office a sonné. Et on voit parfois, voilà, vous avez un O inachevé, parce que l'office a sonné, donc elle a laissé immédiatement son stylo pour aller à l'office. Alors on remarque qu'il y a aussi une petite évolution, c'est-à-dire que lorsque cette habitude de savoir s'arrêter à temps a été acquise, elle finit le mot qu'elle avait commencé. Mais elle ne va pas plus loin. Elle ne s'arrête plus au milieu de la lettre, elle finit même le mot qu'elle avait commencé, mais elle ne rajoute pas d'autres mots. Voilà, elle s'est donné les moyens pour arriver effectivement à l'office, comme il le fallait. Alors, en même temps que je dis cela pour la conversion, une lumière sur notre vie, une décision concrète à mettre en œuvre, je voudrais insister sur une autre étape de la conversion qui est souvent méconnue. Je sais que je commence à parler un peu longuement et je vous demande encore un petit effort, si vous piquiez du nez, relevez-vous. Quelle est cette étape un peu méconnue ? C'est l'affermissement. Entre la décision et la mise en pratique, il y a une étape que l'on néglige souvent, c'est l'affermissement. Pour pouvoir être fidèlement mise en pratique, une décision discernée doit être affermie. À défaut, elle risque de vaciller à la première difficulté. Vous voyez, de la même façon, quand on plante un arbre dans une forêt, on va l'entourer d'un petit grillage pour le protéger, pour éviter que la jeune pousse soit broutée ou piétinée par un des animaux de la forêt. Eh bien, l'affermissement, c'est un peu ce petit grillage que nous mettons autour de la décision concrète que nous avons choisie pour éviter qu'il soit immédiatement piétiné alors qu'il est encore fragile par je ne sais quel animal, entre guillemets, de passage. On peut se demander, tiens, c'est vrai, la dernière fois que j'ai voulu prendre une décision, une résolution, est-ce que j'ai pris le temps de l'affermissement ? Je voudrais vous donner quelques moyens pour aider à l'affermissement. Le premier moyen, c'est écrire la résolution avec son objectif. Si je reste avec mon exemple précédent, eh bien, arrêter mon activité immédiatement pour arriver à l'heure à la messe. Voilà mon objectif. Deuxièmement, fixer le temps où on la mettra en pratique. faut que mon activité précédente soit terminée 20 minutes avant. Je pourrais ajuster si j'avais mal choisi au départ, mais fixer ce temps objectivement. Troisième moyen, se confier à l'intercession des saints, en particulier de ceux qui ont vécu les mêmes combats ou des combats similaires. Se confier à l'intercession des justes de nos familles. Se confier même à l'intercession du Christ. Souvenez-vous, au dernier repas, Jésus dit à Pierre, « Pierre, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne disparaisse pas. » Eh bien, nous pouvons aussi invoquer le Christ en disant, « Seigneur Jésus, toi qui t'es fait notre grand prêtre, intercède pour moi pour que ma résolution ne disparaisse pas. Affermis-la, comme tu avais affermi le cœur de Pierre. » Nous serions tellement plus heureux et fermes si nous prenions au sérieux la communion des saints. C'est vraiment un don immense que le Seigneur nous fait. Quatrième moyen, faire mémoire des flammes de notre sacrement de confirmation. Nous avons reçu l'esprit de force. Eh bien, on peut invoquer le feu de l'esprit pour qu'il cuise notre résolution comme un cuit, un vase précieux, pour qu'il conserve sa forme. Esprit Saint, affermis-moi, que ma volonté soit libérée de toute mollesse, toute nonchalance, toute pusillanimité, comme la glaise durcie sous l'effet des flammes, que ma volonté s'affermisse, ô Esprit Saint, dans ton feu. Et puis, cinquième moyen pour l'affermissement, recevoir régulièrement le sacrement de la réconciliation. Vous savez, le sacrement de la réconciliation, il vient pas simplement nous laver de nos péchés, il vient aussi nous donner la force pour demeurer fidèles. Et donc, parfois, lorsque nous sentons que notre résolution vacille, notre détermination vacille, il est bien de se poser la question, mais ça fait combien de temps que j'ai reçu le sacrement de la réconciliation? Parce que j'ai besoin de cette force, peut-être, du renouvellement de cette force pour demeurer fidèle à ma décision. Voilà, cinq petits moyens. Écrire la résolution avec son objectif. Fixer le temps où on la mettra en pratique. Se confier à l'intercession des saints. Faire mémoire des flammes de notre confirmation. Recevoir régulièrement le sacrement de la réconciliation. Seigneur Jésus, nous espérons ta venue glorieuse. Et nous voulons profiter de ce temps de l'Avent pour être prêts. Par l'intercession de Saint Jean-Baptiste, nous te demandons de nous baigner dans les flammes de l'Esprit-Saint, qu'il affermisse notre résolution pour que nous demeurions fidèles. Que le souci d'affermir ce qui a été discerné soit désormais vivant et conscient dans toute notre existence. Amen.